Mais je vais reprendre Clara, hein, parce que c'est elle au départ qui m'a beaucoup appris. Hein, donc, oui, c'est ça. Donc, je vais y aller tout doucement. Donc, je vous avais dit pour Clara, le dévoilement, il est venu du présent vers le passé. Hein, donc, je ne vais pas vous faire un, comment on appelle ça, un génogramme, là, hein, parce que je trouve que chacun a ses outils. Les génogrammes, c'est plutôt des outils cliniques. Hein, donc, moi, je vais faire des dessins donc, qui ont à voir avec l'emprise et la déprise. Ça va, donc, avec les ruptures. Okay, donc, je ne vais pas travailler avec des outils dont vous avez l'expérience. Quoi. Mais bon, chacun a les siens. Quoi. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que Lila, la fille de Clara et de son premier mari, qui s'appelle Faustino, hein, donc, cette jeune fille déménage avec son mari en Bretagne. Ce sont des Parisiens. Vous voyez, donc elle déménage. Et ça fait des années que Lila, donc la fille de Clara, s'occupe de son papa. Et son papa, il est aveugle suite à la lutte armée au Chili. Donc, c'était un tribun blessé de guerre. Hein, donc, et cet éloignement géographique, elle qui s'occupe depuis des années de son papa, en même temps que ses trois enfants, en même temps qu'elle a du boulot, vous voyez le truc, hein, donc cet éloignement géographique d'aller habiter en Bretagne, elle le vit avec énormément de culpabilité. Hein, donc, puisqu'elle va laisser son père, hein, donc, qui lui dit toujours des trucs du genre « je n'ai pas besoin de toi de toute façon, mais je n'ai personne pour m'aider. Hein, » donc, toujours des trucs un peu comme ça. Voilà. Et donc, ça va mal. Et elle consulte, parce qu'elle est un peu dévorée de culpabilité, elle consulte. Elle a déjà consulté une fois quand elle a eu sa première fille. Hein, donc, et à ce moment-là, elle avait des extraits de films, comme elle dit. Vous voyez, des trucs qui des souvenirs qui venaient en tête. Même pas des souvenirs, elle ne disait pas des souvenirs. Des extraits de films qui lui revenaient. Hein, donc, et la psychologue de l'hôpital lui a dit, bon non, c'est normal, c'est le post-partum, machin, donc voilà. Ça va s'en aller, c'est normal. Donc, mais cette fois-ci, elle tombe sur une psy qui en connaît un peu plus sur les questions traumatiques, hein, donc, et qui l'écoute là-dessus, qui l'a fait élaborer sur ses extraits de films. Hein, donc, et donc, oui, ça devient de plus en plus clair, ces extraits de films. Donc, à côté de ça, moi, je fais un récit avec sa mère déjà depuis 2 ans. Mais les choses n'ont rien à voir. Ça va donc, mais c'est comme ça dans la vie. Hein, donc, quand apparaissent les secrets, ils apparaissent à travers des choses qui n'ont rien à voir. Donc, mais les étoiles se sont alignées peut-être. Toujours est-il que voilà, c'est comme ça. Et donc, cette petite Lila, elle a 44 ans, hein, d'accord ? 44 ans, ce n'est pas une petite Lila. Sauf qu'elle redevient petite. Et donc, dans les extraits de film, elle a 7 ans, hein, donc, et elle vit dans une grosse cité. Et vous voyez, ce monde chilien de l'exil est vraiment très spartiate, vous voyez, ils n'arrêtent pas, c'est les survivants, ils pensent à tous ceux qui sont au pays, tous ceux qui sont morts, tous ceux qui sont dans les tôles de Pinochet, vous voyez, ils sont en partie là-bas dans leur tête, ils récoltent plein d'argent, le plus possible pour aider là-bas, vous voyez, c'est très dur pour une petite. Mais elle a une amie, hein, donc, une amie qui s'appelle Ami, qui habite dans le même bâtiment. Et donc, c'est sa petite sœur de cœur. Et donc, Ami est souvent chez elle. C'est vraiment des enfants très joyeuses, des sœurs de lait. Hein, donc, elle trouve dans ce monde difficile des exilés chiliens des ressources énormes, des joies de vivre. Hein, donc, seulement, il y a une deuxième scène, hein, donc, qui se met progressivement en place. Parce que Clara va se séparer de ce mari, Faustino, qui est lui dans cette secte dont je vous avais parlé, là, cette secte trotskiste. Hein, donc, elle se sépare parce qu'elle va habiter avec son second mari. Hein, donc, et il y a un hébergement alterné. Hein, donc, et Faustino, très progressivement, c'est ce qui apparaîtra dans les films, il demande des services sexuels à Ami. Et il raconte une histoire. Toujours, il y a cette deuxième scène. Il dit à sa fille que, voilà, il faut vraiment que tout le monde se taise à ce propos, parce que sinon, elle perdrait Ami, et personne ne peut comprendre l'amour qu'ils vivent tous les trois. Personne ne peut comprendre ça. Hein, donc, et donc, voilà, il faut que Lila prenne soin de ce secret. Et bon, s'occupe d'Ami aussi, pour que Ami se taise. Hein, donc, parce que sinon, il y aura des choses terribles qui vont se passer. Tout va exploser. Donc, c'est un secret trésor qui va unir le trio. Hein, donc, Lara n'aura plus aucun souvenir. Hein, donc, ça va créer une espèce d'amnésie totale. Mais pas Ami. Ami ne va pas oublier. Hein, donc, on voit qu'il y a un système d'emprise qui se met en place, qui est intrafamilial, mais qui est aussi lié à de la violence qui se joue là-bas, un monde que se recréent les enfants des exilés. Quoi. Et donc, Clara va rompre avec sa mère et va rompre avec le nouveau mari de sa mère. Parce que Faustino lui raconte, mais oui, jamais Clara ne pourrait comprendre ce qui se joue. Donc, il faut vous dire que Clara a aussi vécu des abus. Donc, et que moi, à l'époque, je la rencontre, elle me dit toujours, mais tu sais, moi, ce que j'ai vécu, c'était une époque. Hein, parce que jamais Lila ne pourrait vivre des choses comme ça. Je lui ai appris à défendre son corps, jamais. Oui. Donc, les choses n'ont rien à voir. Oui. Mais en fait, vous allez voir qu'elles ont tout à voir, mais elles n'ont rien à voir. Donc, cette petite Clara, elle rompt avec son père, qui lui raconte des tas d'histoires. Par exemple, que Clara les a abandonnés, alors que on n'abandonne pas un homme malade, hein, vous voyez, un homme aveugle, malade. Hein, et que maintenant, Clara doit s'occuper de lui à cause... Non, et que maintenant, Lila doit s'occuper de lui à cause de sa mère, Clara, qui est partie. Hein, oui, il y a un monde qui se construit. Donc, un monde où il n'y a pas d'extériorité. Donc, il y a une rupture. Et puis, il y a une rupture avec Ami. Parce que Ami a 14 ans et Ami refuse les services sexuels à 14 ans. Parce qu'il y a ce décalage dont vous parliez. Hein, elle commence à voir qu'il y a un truc pas normal quand même dans ce qui est demandé dans ce monde-là. Pas Ami. Ami, elle doit... Non, c'est Ami qui trouve que c'est pas normal, mais pas Lila. Lila trouve que tout est normal. C'est son père, etc. À ce moment-là, elle rompt l'allégeance, mais Faustino, il lui dit que d'accord, ok, elle peut partir, mais si elle parle à ses parents, eh ben, il expliquera à ses parents que ça fait des années que Ami, elle vient de son plein gré, voir Faustino faire partie de sa vie de famille, hein, parce qu'elle a pris beaucoup de plaisir à ses jeux et que donc. Voilà, ça c'est la vérité. La petite, elle a tellement honte, bien sûr qu'on puisse dire des trucs comme ça, qu'elle puisse devenir une pute de cité, comme on dit, parce que les cités, des fois, c'est assez hard pour les questions de genre, c'est parfois un peu rétrograde, pute de cité. Qu'elle ne dit pas qu'elle n'était pas consentante, de toute façon, elle dit rien, elle coupe. Évidemment, Lila est totalement inconsolable, puisqu'elle perd, Ami, elle perd ce monde qu'ils avaient créé. Hein, et elle ne comprend pas pourquoi, et c'est à ce moment-là qu'elle oublie. C'est ce qu'elle reconstruit après, elle oublie complètement tout ce qui s'est passé, etc. Ami, elle n'oublie rien. Mais c'est tellement difficile pour elle qu'elle tombe très vite dans le milieu des drogues. Elle s'automédique, elle mettra des années à en sortir, des années. Tout ça dans le silence, évidemment. Donc, l'une s'automédique dans les drogues, l'autre est dans une amnésie sélective. Et elle continue à ne plus voir Clara. Et puis, il y a un petit événement dans sa vie, Lila. C'est qu'elle rencontre un homme. Elle a déjà rencontré des hommes, et ça n'a jamais marché, ça ne marchait jamais avec son père, c'était très compliqué, tout ça. Mais là, elle rencontre un homme et elle l'aime. Et ils font des enfants. Et bien sûr, le père, il trouve ça absolument scandaleux. Cet homme-là, il le détruit vraiment, quoi. Il trouve que ce n'est pas du tout un homme pour sa fille, etc. Machin. Parce qu'évidemment, dans ce monde très fermé, il faut que ça reste fermé. Oui, il faut que, qu'il ait le contrôle, quoi. Donc, et là, la passion, on le sait, la passion pourrait exploser les contrôles, quoi. Et c'est ce qui se passe là, dans le sens où il peut danser sur sa tête. Lila, elle épouse son mari, elle fait des enfants, et elle accepte, parce que son mari le veut, que les donc que Clara voit ses petits enfants, alors qu'elle ne les avait jamais vus avant. Elle accepte ça, hein, donc, mais elle reste extrêmement distante. Elle raconte rien, hein, donc et donc. Oui, ça, tout se passe dans le silence, dans cette amnésie qui fait qu'elle vit en symbiose avec son père. Donc elle-même vit un autre système d'emprise. Ce n'est pas le même que celui qu'elle a vécu avec Camille. Mais voilà. Donc elle reprend contact. Donc, et 2 ans après le récit de recherche que je fais avec sa mère, Lila a des remémorations. Et à ce moment-là, ça fait effet de vérité. Donc. D'abord, la psy s'est écouté ça en disant que c'est peut-être autre chose que des films. Et puis, progressivement, elle se pose des questions et elle retrouve Ami. Elle va la rechercher. Donc, et Ami a 40 ans comme elle, 44 ans comme elle. Elle est sortie des drogues, mais elle ne croit pas du tout aux gens. Et donc, elle a trouvé un certain équilibre. Elle vit dans l'Hérault, d'ailleurs, oui, près du Pic Saint-Loup, d'ailleurs, c'est vrai. Elle vit là, à l'époque. Elle a ses chiens, elle a ses animaux, elle a la nature, elle vit complètement en ermite. Hein, donc, et elle a un certain équilibre, une certaine sérénité dans cette vie-là. Mais ça suppose de ne pas avoir de contact avec les gens, hein, donc d'aimer surtout les animaux et la nature, quoi. Et puis, Lila vient la rechercher et lui parle de ce qui s'est passé. Elle ne vient pas seule, elle vient avec son mari Cédric, elle vient avec ses remémorations. Et à ce moment-là, Ami atteste, ça atteste l'attestation, vous voyez, des vies. Et donc, elle atteste aussi qu'elles ont vécu ça. Donc, et à ce moment-là, elle est prise d'une rage, Lila. Hein. C'est une fille qui sait se défendre, hein. Elle a une vie de cité, elle sait y aller, une rage terrible, quoi. Elle va confronter son père, qui dit bien sûr que non, qu'elle préfère croire Ami plutôt que lui, tout ça parce qu'elle est coupable, parce qu'elle veut déménager et laisser son père seul, malade, enfin, etc., etc. C'est le coup classique qu'on connaît tous très bien, du bourreau qui devient victime, qui se prend pour une victime, etc. Alors à ce moment-là, Lila, avec sa mère, ils envoient une lettre à tous les compagnons politiques de Faustino. Donc, et personne ne répond. Vous voyez le silence? Personne ne répond à cette lettre. Hein, donc, ils racontent ce qui s'est passé. Hein, donc. Et puis, à la famille de Faustino. Et là, la famille se retourne complètement contre Lila. Et exclut Lila et ses enfants de tout lien familial de ce côté-là. C'est très dangereux de dénoncer, c'est très dangereux dans les situations d'emprise, que ce soit des emprises collectives, familiales ou individuelles, c'est très dangereux, quoi. Et donc on voit, il y a un dévoilement, il y a une assomption, le fait d'assumer collectivement avec Ami, avec Clara, etc. Mais en même temps, il y a une rage qui est là. Une rage qu'a Clara aussi. Vous imaginez, Clara, elle a vécu des choses terribles, et puis elle voit ça arriver chez sa fille, quoi. Alors qu'elle est une spécialiste de ces situations, elle est une spécialiste de l'emprise. Vous commencez à voir, elle a refait des études, elle a tout fait pour pouvoir en faire un savoir, pour pouvoir. Et pour sa fille, elle n'a rien vu. C'est terrible, quoi. Alors elle doit retourner au Chili. Donc elle retourne au Chili avec son mari. Pour essayer de comprendre ce qui s'est joué, quoi, indépendamment de la sphère politique, dans la sphère privée et dans la sphère politique. Et elle retourne un peu en pensée voir 2 adolescents qui étaient ses 2 parents, Diego et Melinda. Hein, donc on était dans les années 50. Et ils ont 16 ans tous les deux, et ils ont une relation sexuelle, et voilà qu'elle est enceinte, donc ils se marient. Hein, donc, parce que c'est une famille bourgeoise, hyper conformiste de Santiago, on ne peut pas déroger, etc. Ils se marient. Mais ils restent dans la grande famille, chacun reste dans sa famille. Vous voyez, très vite, Diego, qui est un peu un adolescent, très peu responsable, se désengage complètement. Et donc, sa mère, Melinda, perd tout à fait de sa valeur sociale. Hein, puisqu'à l'époque, quand tu étais divorcée, tu valais plus grand-chose. Quoi. Donc, elle perd, quoi. Et puis quand Clara a 7 ans, miracle, hein, donc miracle social, voilà que Melinda, sa mère, épouse Alessio, hein, donc, qui est bien blanc, bien sur tous les rapports, oui, qui a pris une femme qui ne valait pas grand-chose. Quoi, donc, et donc, il est extrêmement paternel avec Clara. Et voilà, la scène est magique, vous voyez, dans cette grande famille arrive le beau-père, super, un père pour Clara, etc. Tout va se rétablir, l'honneur de la famille, tout est bien, etc. Sauf que quand Clara a 7 ans, commencent les premiers attouchements. À ce moment-là, elle se rend compte qu'il y a un truc qui ne va pas. Elle n'est pas sous emprise, vous voyez, elle se rend compte. Hein, donc, mais ce qui se passe, c'est qu'elle voit tous ses rêves s'effondrer, tous les rêves. Elle se dit que si elle dénonce, vous voyez, tout ça... Tout ce qui a été construit, toute cette magie, hein, toute cette scène extraordinaire va s'effondrer et qu'on va voir la double scène. Et elle se demande d'ailleurs si les autres enfants ne vivent pas exactement la même chose. Hein, donc, et si, oui, si derrière les décors, il n'y a pas... si les choses ne se jouent pas de la même façon dans les autres familles. Mais il y a une servante Mapuche qui est là. Ah, donc, qui est une, on disait les petites bonnes Mapuche des années 50, elles n'avaient aucun pouvoir, elles étaient quasi esclavagisées, mais elles connaissaient la vie. C'était pas comme elles n'avaient pas le masque que devaient avoir les familles bourgeoises. Et la servante Mapuche, elle se rend très bien compte de ce qui est en train de se passer. Mais c'est la seule d'ailleurs. Hein, donc, mais d'un autre côté, elle ne peut rien dire. Parce que si elle dit quelque chose, de toute façon, elle va se faire virer, elle ne pourra pas aider cette petite fille. Alors elle essaye de l'aider, d'une manière ou d'une autre. Elle lui raconte des contes terrifiants, des contes Mapuche terrifiants, ce qui permet de développer l'imaginaire de Clara. Vous voyez, parce qu'elle aussi, elle est devant un monstre. Hein, donc, et donc, elle n'est pas sidérée dans cet imaginaire. Elle lui apprend à danser. Même les dimanches où elle pourrait avoir un jour de liberté, elle reste et elle dort dans la chambre de la petite. Hein, donc, elle la protège. Et c'est ça, c'est cette relation avec la servante Mapuche qui va fonder la conscience politique de Clara. Hein, donc elle commence à lire plein de trucs politiques. Elle adhère, au début elle devient maoïste, elle n'est pas trotskiste. Hein, donc, mais elle est dans des activités de militance, elle trouve qu'il y a des risques à prendre, qu'il faut se mettre au service des enfants. Hein, vous voyez, donc, parce que s'il y a des monstres comme son beau-père, et ben c'est à cause de la société capitaliste. C'est elle qui produit le patriarcat, qui produit les monstres. Hein, donc c'est contre elle qu'il faut se battre. Donc elle pourrait être devenue délinquante, se suicider, s'automédiquer. Vous voyez, elle pourrait être tombée très, très largement dans d'autres formes d'automédication par rapport au traumatisme qu'elle vit. Mais sa conscience politique la sauve, parce que justement, cette femme lui montre elle lui montre qu'il y a des classes, elle lui montre qu'il y a des combats. Donc toute sa rage, elle peut s'en servir pour le combat politique. Oui, donc. Et puis une fois qu'elle a son bac en poche, elle a 18 ans, là elle dit à sa mère ce qui se passe. Déjà, je vais avancer. Elle dévoile. Donc elle dévoile à sa mère ce qui se passe depuis des années sous son toit. Hein, donc. Et la mère, c'est délicat hein, de dénoncer, parce que la mère, elle est tellement, comment dire, secouée, hein, donc, qu'elle peut pas, elle n'est pas en capacité de faire face. Donc elle dit rien à son mari. En plus, il faut voir la vie de ces femmes à cette époque-là. Hein, donc, elles n'avaient pas de capacité offensive. Hein, donc elle dit rien, mais ce qui se passe, c'est qu'elle traverse une voie rapide, deux jours après, elle traverse une voie rapide de Santiago, un chemin qu'elle ne devait jamais prendre, elle se fait faucher par une voiture, elle meurt. Donc vous imaginez le sentiment de culpabilité de Clara, quoi, hein, donc c'est terrible, quoi, hein, c'est vraiment une... Et donc, à ce moment-là, Alessio l'exclut de la famille, elle est dehors, quoi, hein, donc, parce qu'on considère que c'est de sa faute. Hein, donc, Et donc, il lui reste le parti. Alors, elle se radicalise de plus en plus. Elle part dans un camp d'entraînement à Cuba. Elle apprend le maniement des armes, le maniement des explosifs. Oui, elle s'intègre dans une structure très militarisée, avec des chefs de guerre. Vous voyez, parce que ça la tient. Hein, donc, c'est un exosquelette, ça la tient. Quoi, hein, donc, et là, elle rencontre Faustino, qui est un camarade de combat. Ça va toujours ? Je continue. Ouf là, bon. Voilà. Et puis, il y a le coup d'État. Hein, donc, je vous raconte, il y a plein de choses que je passe, mais ça, bon. Il y a le coup d'État. Hein, donc, elle épouse Faustino. Il y a un accident. Faustino perd la vue. Quand ils sont en train de faire un atelier d'autodéfense. Voilà, c'est pas la bombe, mais c'est les détonateurs qui explosent. Elle-même perd une oreille. Enfin, bon, il y a plein de trucs. Allez, voilà. Et puis... la naissance de Lila, c'est vraiment dans la terreur, c'est au moment du coup d'État. Donc elle part de cache en cache, finalement, ils vont se réfugier à l'ambassade de France, il y a le typhus, le bébé a failli mourir de ça, les réfugiés partent, mais elle ne part pas parce que c'est considéré comme des radicaux. Enfin, vous voyez, la terreur, quoi. Elle est vraiment dans la terreur. Et c'est à ce moment-là qu'elle est post-trauma, quoi, qu'elle perd sa capacité de penser. Hein, donc, voilà. Et donc, quand elle arrive en France, ben, Faustino la maintient complètement en esclavage et elle rentre dans la ligne révolutionnaire, elle se radicalise à fond. Donc. Puis alors, elle épouse Manuel, son deuxième mari. Hein, donc, elle se sépare de là, elle est complètement exclue de la ligne. Hein, donc, mais, bon, elle... elle sort de l'emprise de la ligne, mais par contre, elle laisse sa fille sous l'emprise de Faustino. Donc, c'est pas simple. Donc, elle se déprend, mais d'un autre côté, c'est Lila qui est sous emprise. Donc, à partir du moment où elle peut rompre le silence, donc, elle se dit, Clara, que la seule qui a parlé, c'est pas Melinda, sa mère, c'est pas elle, Clara. Donc, c'est Lara, c'est la petite. Il a fallu 3 générations pour parler. Vous imaginez, 3 générations, quoi. Et l'aide d'amis, évidemment, quoi. À ce moment-là, tous ces affects mortifères qu'elle a vécu remontent, Clara. Hein, donc, elle est en train de faire ce récit de vie en même temps, quoi. Hein. Donc, elle retourne au Chili et elle retrouve les autres femmes que Alessio a violées, les autres enfants. Hein, donc, elle lève le silence. Chacun a eu des parcours différents. Quoi. Donc, et avec ses anciens camarades, elle fait une limpia, donc une cérémonie traditionnelle de deuil, d'une vie de merde, comme elle dit, c'est pour te laver de toute la merde du passé, mais c'est ensemble. Hein, donc, c'est pas tout seul, c'est ensemble, parce que tout seul, on a été aux prises avec cette horreur qui a été la violence politique, qui a été le régime totalitaire, et chacun on a essayé de s'en sortir mal, mais on n'est pas responsable de ce qui s'est passé. Vous voyez, donc, voilà, il s'agissait de se libérer de la culpabilité, de la honte. Hein, donc, de retour en France, elle se met dans un groupe, oui, c'est pas un groupe de Chiliennes, c'est un groupe d'Argentines. Alors, elle m'explique, c'est sa vision, que les Argentines sont des femmes très puissantes, quoi. C'est pas la même chose que les Chiliennes qui sont toujours dans la culpabilité, dans l'expiation, ce qu'elle dit. Elle, hein, s'il y a des Chiliens dans la salle, je suis désolée, c'est pas mon avis, mais bon. Voilà, et que les Argentines... c'était une période aussi où elle se réveillait. Hein, donc, et là, pour la première fois, elle peut parler de ce qui s'est passé. Hein, donc, et auprès de ces femmes, bon, elle devient une féministe militante et elle essaie de sortir de l'affliction. Quoi, hein, donc, et lentement, donc, l'emprise pour cette famille devient un savoir d'expérience pour la petite, pour la mère, pour les autres femmes, hein, donc, qui ont été violées. Et donc, on voit qu'il y a un système d'emprise initiale qui a une transgression intrafamiliale, un premier système d'emprise, une radicalisation dans la lutte armée qui est une autre forme d'emprise, hein, donc, avec une perte progressive des capacités de faire face, des capacités de penser, hein, donc, oui, avec le vide qui arrive, le vide dont vous parliez, le vide post-traumatique qui arrive, une emprise conjugale, une radicalisation dans une dans une secte politique oui, très, très radicale, et puis une émancipation, mais qui prend des années avec une dynamique de parole, d'élucidation, de savoir, d'expérience. Quoi, hein, donc on voit sur deux générations comment les choses se sont dénouées. Hein, donc, et je trouve que dans cette histoire, dans cette étude de cas, tout y est. Vous voyez, tous les mécanismes d'emprise, les nœuds, mais aussi la déprise. Hein, donc, et le courage, parce que je vous assure que ces femmes, Lara et Clara, ce sont des femmes extraordinaires. Quoi, hein. Et donc, on voit cette capacité qu'ont les êtres humains de faire face et de se refaçonner malgré l'adversité. Et vous voyez que ce n'est pas la résilience telle qu'elle est pensée de plus en plus par le monde social, comme une capacité intérieure de faire face. C'est toutes les rencontres. Hein, donc, et tous les recours et toutes les ressources qui ont permis à cette famille, sur deux générations, de construire les femmes extraordinaires qu'elles sont aujourd'hui. Voilà, merci pour votre attention.